Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
L'interview du jour.
On raconte qu'autrefois, il y avait dans un lointain pays deux belles forêts. L'une d'entre elles était très grande et tout le monde aimait y aller. On pouvait y ramasser les marrons et les champignons. On pouvait aussi s'y aimer et se cacher. Mais l'autre, elle était toute petite et personne n'y allait. Faut dire qu'elle était étrange et mystérieuse. Étrange, parce qu'il ne pleuvait jamais dans cette forêt. Ni le printemps, ni l'automne, ni l'hiver ne venaient. C'était toujours l'été, et mystérieuse, car le temps passait très vite dans la forêt. Effectivement, il suffisait, à un petit bonhomme, le temps de manger un chewing-gum pour devenir un homme. Alors les gens en avaient peur, et ils n'osaient pas y aller. Mais voilà. Comment expliquer aux enfants qu'il ne faut pas aller quelque part? C'est très difficile. Alors, depuis des années, les gens de ce pays disaient à leurs enfants que dans cette petite forêt, que l'on appelait la forêt des heures, dans cette petite forêt, il y avait un monstre. Mais la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère du bûcheron, qui habitait près de cette forêt, elle, autrefois, elle ne disait pas que c'était un monstre. Elle disait que c'était un ogre.
Bonjour, ici R. Diwa pour l'interview. Aujourd'hui, R. Diwa est au théâtre de Die pour une résidence de la Fabrique d'Histoire. Et en notre compagnie, nous avons Agnès,
Marc,
Muriel.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la Fabrique d'Histoire, c'est une nouvelle création qui est en cours.
Oui, c'est une création qui est en cours, qu'on a commencé il y a un an. Voilà, en février dernier.
Alors, cette création, c'est toujours autour du même thème, de cette personne, ton héroïne qui est souvent dans le spectacle ou pas?
Non, c'est pas du tout Philomène. Elle est pas là, elle est partie en vacances à Honolulu pour chercher des histoires. Et en attendant, ben, moi je vais dans la forêt des heures avec mes amis. C'est un conte de Jacques Couturau. Voilà, et donc la forêt des heures, et qu'on explore maintenant depuis un an, quoi.
Est-ce que tu as connu toi-même Jacques Couturau?
Non, je suis arrivée un an après qu'il soit mort, ici, dans le Diwa.
Et je m'adresse à Marc. Vous, par contre, vous l'aviez connu.
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler avec Jacques sur un de ses spectacles, qui est La Nuit des Jouets, où j'avais fait une reprise d'un rôle. Le spectacle avait été créé précédemment. Mais je côtoyais aussi beaucoup de gens qui connaissaient Jacques. Donc, quand j'ai travaillé avec lui, j'étais content. J'étais ravi, quoi, de pouvoir avoir une expérience avec lui. Et j'en ai pas eu d'autres. Voilà, mais c'était un moment assez particulier parce que en plus ce spectacle avait un côté un peu magique et décalé, quoi. Et de faire quelque chose qui est issu de son imagination avec cette forêt des heures, c'est un pont, quoi. C'est un lien, quoi, que je fais comme ça, que j'ai la chance de faire. Voilà, parce que je dois dire que j'étais pas au départ de cette aventure d'Agnès et Muriel. Je viens d'arriver.
Et quel homme était-il à vos yeux?
Oh, c'était quelqu'un de très doux, très gentil, très. Enfin, j'ai cette image-là, moi, de quelqu'un très calme toujours, très posé. Voilà, j'ai gardé cette image-là. Mais donc, je ne l'ai pas plus côtoyé que ça pour, enfin, dans des situations suffisamment diverses pour pouvoir en parler mieux.
Agnès, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de travailler ce spectacle ?
Eh bien, en fait, ça pourrait être une longue histoire, mais je vais la faire en bref. J'ai été dans un vide-grenier. Et là, j'ai été au stand que tenait Brigitte Perroton, Bibi. Et je vois Les Contes des Mille et Une Nuits, qui me plaisait bien, une édition qui était belle. Alors je lui achète. Et puis, je vois une montre. Voilà. Et elle me plaît. Je fais « Waouh !» Donc, je l'achète. Et puis, Brigitte me dit bah, « c'était à Jacques ». Puis moi, je ne connaissais pas trop. Je voyais de qui il s'agissait, mais je ne connaissais pas trop. Ok, le temps passe à peu près un an. Je vais voir le spectacle de Bibi. Topor me fait chanter. On discute. Et puis elle me dit, mais toi qui racontes des histoires, Jacques a écrit des histoires et il en racontait. Et ça serait bien qu'elle vive, et notamment La Forêt des Heures. Alors je dis, ben ouais, ça me semble une bonne idée. Moi, ça me dit bien. Et puis le temps passe, on n'arrive pas à se recroiser pour qu'elle me file les fameux manuscrits. Et je descends de Bretagne un an plus tard encore avec Muriel. Je descends de Bretagne dans son camion et elle me dit « Tiens, j'ai une chouette histoire à te faire écouter. » Alors je regarde le titre, « La forêt des heures », Jacques Couturau. Je dis « Mais bah voilà, du coup, cette histoire, encore une fois... J'ai coutume de dire que je ne choisis pas les histoires, que c'est elles qui me choisissent. Et là, et c'était encore une fois un truc comme ça. Et Muriel va mieux en parler que moi. Mais du coup, voilà, on a écouté cette histoire. Moi, elle m'a plu. On s'est regardé et on s'est dit, bah, on la monte. Bah oui, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Et puis parce que bah, ça me plaisait.
Alors Muriel, puisque tu as l'air d'avoir connu un peu Jacques Couturau...
Non, moi, je ne l'ai pas du tout connu. En fait, j'ai connu son histoire, La Forêt des Heures, depuis que je suis toute petite. Et je devais avoir une dizaine d'années. Et c'est une histoire qui est très, très vite devenue mythique dans notre, dans mon enfance, dans les amis autour de... Les amis autour de... Enfin, les enfants autour de moi, puis mes propres enfants, puis les enfants des amis. Enfin, voilà, c'est une histoire qui a beaucoup circulé. Avec des phrases de cette histoire qui sont devenues pratiquement du langage familial. Et voilà. Et cet homme, Jacques Couturau, j'avais aucune idée où il habitait, aucune idée de qui il était, est-ce qu'il était conteur ou pas ou quoi. Et puis, dans mon histoire de vie, il y a une dizaine d'années, je suis venue vivre 2 ans dans la Drôme. Je n'ai pas non plus su que Jacques Couturau avait monté le théâtre de Die, ni que... Enfin voilà, j'étais là. Et en fait, c'est quand on... Effectivement, avec Agnès, quand on a écouté La Forêt des Heures... ensemble, et qu'elle m'a dit « Mais en fait, c'est écrit par Jacques Couturau, qui habitait à Die, qui a monté le théâtre ?» J'habitais déjà plus dans la Drôme. Et quand on s'est dit « Top là !», c'était effectivement une grande boucle par rapport à cette histoire. Donc je connais très bien, c'est une histoire qui m'a imprégnée complètement, mais je ne connais pas le personnage lui-même. Voilà. Mais son imaginaire me paraît proche.
Et Muriel, quelle est ta fonction alors dans cette préparation du spectacle ?
Ma fonction ? Alors, moi je suis, au départ dans ma vie, je suis d'abord danseuse puis comédienne et metteur en scène. J'ai fait du spectacle pendant 20 ans. Après j'ai arrêté, j'ai fait un autre métier et je reprends du spectacle depuis 2 ans. Et du coup, je suis sur scène... Je suis sur scène ensemble avec Agnès et Marc, avec un travail qui au début s'est voulu collectif, donc il n'y avait pas d'idée de mise en scène écrite par une personne. Et voilà, donc je fais partie du trio qui est sur scène, donc comédienne. Voilà.
Une question à vous trois. Est-ce que vous avez la même vision de ce spectacle au niveau du texte et de sa teneur ou de sa philosophie ?
Je crois que chacun a sa propre vision. On en discute, on en a beaucoup discuté, surtout au début, au démarrage. Peut-être là un peu moins avec Marc sur le fond. Et le parti pris, parce qu'il y a Lara aussi qui est avec nous, et il y a Guillaume aussi, Guillaume Ozanon, Lara Manipou, qui fait, Lara qui fait les masques, décors. Elle fait une fresque, une grande fresque qui apparaît dans le décor. Et elle a fait la conception aussi, voilà, de ce décor que Lucille a réalisé, Lucille Aimer. Voilà, enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. Et en tout cas, tout ça pour dire qu'on s'est dit que cette forêt, chacun allait la traverser avec sa vision et avec son histoire en fait. Donc avec les différences qu'on a, on n'est pas obligé d'être d'accord sur ce que... Voilà. Le tout, c'est de que chacun y trouve son compte. Donc voilà... On a un peu chacun notre interprétation qui cohabite. Lara, on lui a pas demandé. Voilà, nous on voudrait quelque chose comme ça, parce que pour nous ce conte c'est ça. Elle a plongé avec nous dans le conte. Elle a dit ah ben moi les choses je les vois comme ça. Et à partir de ce qu'elle fait, nous on joue avec. Voilà. Et Guillaume, il a son propre langage dans la création lumière aussi. Et voilà. Donc on avance ensemble. Il n'y a pas de metteur en scène, donc il n'y a pas une vision qui prédomine plus qu'une autre, quoi, qui a plus raison.
Muriel.
Ouais, je voulais, évidemment, juste je voulais dire aussi que du coup l'histoire n'est, enfin le propos de base n'était pas uniquement de raconter cette histoire, mais de raconter ce que cette histoire nous raconte, ce qui est un petit peu différent et ce qui permet que chacun la traverse avec son aventure personnelle et son vécu personnel. Donc, ok, on va vous raconter l'histoire, mais on va aussi, ou presque surtout, vous raconter ce que cette histoire nous fait traverser, nous, personnellement.
Est-ce que l'un de vous peut nous raconter ou nous présenter ce qu'est cette histoire ?
Ben, on va peut-être pas la dévoiler.
Non, mais il doit y avoir une petite intrigue quand même. Non
ben, la petite intrigue, oui. Enfin, grosso modo, c'est les ressorts qu'on trouve dans tous les contes, où c'est les personnages qui la traversent sont en quête initiatique, comme toujours dans les, enfin comme très souvent dans les contes. Donc en gros, c'est ce sujet-là, avec tout plein d'épreuves, tout plein de données de merveilleux. Il y a du merveilleux dans les contes. Donc là, on s'en... Il y en a beaucoup. Et puis, c'est une réflexion sur des tas de données qui concernent l'humanité, quoi. Enfin, voilà, sans faire de la psychologie de café du commerce ou de choses de ce genre, ben on a tout plein de choses qui sont les richesses de cette histoire, quoi, là-dedans, quoi. Voilà.
Pas raconter l'histoire.
Tant pis. Je voulais savoir une autre chose. Ce spectacle donc qui est mis en place coïncide avec aussi une date anniversaire.
Et oui, alors je
est-ce
sais.
Que c'est, ça fait partie de cette initiative où pour fêter un peu.
Non, au départ, tout, hein. non, pas du tout. Au départ, nous, comme je disais, avec Muriel, on s'est dit, allez, top, là, on monte cette histoire. On s'est retrouvés l'automne d'après, hop, on a rencontré l'équipe du théâtre. On a dit, voilà, nous, on aimerait monter un conte de Jacques Couturau. Et il se trouvait que justement, eux, ils avaient dans l'idée de refaire le hall et qu'ils avaient envie de le rebaptiser en hommage à la compagnie Les Oiseaux de Passage et Jacques Couturau. Donc ils ont fait coïncider les deux événements, c'est-à-dire que nous, de toute manière, notre sortie de résidence là était programmée et ils en ont profité aussi pour faire dans le même temps l'inauguration du nouveau hall et voilà.
Alors cette résidence, vous y êtes pour combien de temps au théâtre ?
Là, on avait 2 semaines, donc voilà, ça se terminera avec le 31 et peut-être, qui sait, le 1er avril, s'il y a une supplémentaire qui est rajoutée Surprise, on ne sait pas encore.
Voilà, et ce spectacle sera joué le 31.
Le 31, et peut-être s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent venir voir ce spectacle. Ouais. Voilà.
Et vous avez des réservations
déjà ? Je pense que oui. Donc, mais s'il y a beaucoup de réservations, on pourra refaire une séance le 1er avril. Donc réservé.
Et ce spectacle, peut-être aussi, c'est important de préciser qu'il n'est pas la première de ce travail, mais qu'il est, donc on l'a appelé un laboratoire interactif et sensoriel autour de la création de ce spectacle sur la forêt des heures. Donc dans l'idée, en fait, c'est une étape de travail, c'est pas encore la première. C'est une étape de travail où on joue quand même la globalité du spectacle dans sa forme, dans une forme en tout cas complètement cohérente. Avec la liberté, on s'offre la liberté d'expérimenter aussi des choses, en tout cas, en particulier sur l'accueil du public et sur l'après-spectacle. Donc, sur l'après-présentation, on va dire, plutôt. Donc, à la fin de cette présentation, s'il y a des gens qui veulent rentrer chez eux dans des horaires plus classiques, on va dire, par rapport à une forme de spectacle normal, il n'y a pas de souci, mais il y aura aussi une troisième partie après. Voilà, donc c'est pas une première, c'est effectivement une expérience avec des surprises, on va dire.
Est-ce que vous avez lu ou approfondi un peu l'étude sur Jacques Couturau, sur ses textes ? Est-ce que vous avez eu d'autres textes qui vous ont séduit ?
Et donc il y a pas de texte, donc on n'a pas analysé, si tu veux, le texte. Et d'autres, il y a dans l'enregistrement de la forêt des heures, il y a aussi l'oiseau qui faisait du lait. Voilà, mais moi j'ai écouté comme ça, comme une petite fille, avec curiosité. Et sinon, je connais rien d'autre des oiseaux de passage ou de Jacques Couturau. Voilà, je connais que la forêt des heures.
Est-ce que tu es en train de dire que les textes de Jacques Couturau n'ont pas de droit d'auteur ? Ou pas, ou si ?
Ouais, bonne question. Là, nous...
Je suppose que pour La Forêt des Heures, c'est un texte comme il n'était que cité ou...
Ouais.
C'est un texte qui donc a été enregistré sur un 33 tours à l'époque en vinyle, donc une publication commerciale. Donc forcément qu'il est déposé, ça c'est sûr. Et puis qu'il y a peut-être des droits de reproduction mécanique, évidemment, comme sur la SDRM, quoi. Mais quant à la SACEM, c'est une bonne question, oui. Enfin, SACEM et SACD. Mais voilà, oui, c'est une adaptation à partir du texte de Jacques. Donc bon, voilà, je ne sais pas.
Donc nous, on n'a pas repris le texte de Jacques Couturau. On a repris l'histoire avec sa symbolique. On a beaucoup travaillé sur justement, comme tu disais, Marc, tout à l'heure, sur le côté initiatique de la quête qu'il y a en général dans les contes, avec les différents personnages qui peuvent justement être pris comme des aspects différents d'une même personne. Donc on s'est beaucoup inspiré des symboliques qu'il y a dans cette histoire. Mais on n'a pas repris son texte mot à mot comme une pièce de théâtre où on garde... Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne s'est pas occupé de cette partie-là.
Mais du coup, les enfants de Jacques sont au courant de ce qui se passe ici, de ce qu'on fait, de... Voilà.
C'était pas dans l'idée de Jacques Couturau non plus de bloquer sa création pour des histoires de...
Non, parce qu'à la fin de son conte enregistré, il dit « Mon histoire est terminée ». Peut-être que vous aussi, un jour, vous aurez envie de la raconter. Donc il passe vraiment la main.
Ouais. Du coup, on a pris ça comme une invitation. Et on a dit, ah oui, nous, on a envie de la raconter.
Ce spectacle, vous l'élaborez sur une scène régionale, avec l'espace qui en incombe. Est-ce que c'est un spectacle que vous allez faire tourner, et vous souhaitez tourner un peu partout ?
Oui, alors on est à la recherche de coproducteurs, de programmateurs, de diffuseurs. Voilà, nous avons besoin de soutien pour vraiment maintenant lancer cette affaire-là. Effectivement, on s'est fait prendre par notre gourmandise. Donc en fait, on a un décor, on demande un plateau relativement grand, même carrément assez grand, avec une vraie installation technique au niveau de la lumière, avec un noir total. Enfin voilà, il nécessite un lieu équipé. et donc des appuis financiers évidents, donc avec des théâtres et des communautés ou des culturels. Enfin voilà, effectivement, on a besoin d'être maintenant soutenu et diffusé.
Agnès, à part ce spectacle, est-ce que tu envisages d'autres choses à nous présenter prochainement ?
Je pense rejouer par ici L'autre et moi, avant l'été, là.
Avec Gilles ?
Voilà, ouais. Non, c'est plus avec Gilles.
Non.
C'est avec Ismo. Voilà. Gilles, avec Gilles, je fais le voyage d'Hippolène. On a gardé le spectacle Jeune Public ensemble. Et L'autre et moi, maintenant, c'est avec Ismo qui a la musique et Régie Lumière. Voilà, mais je vous dirai en temps et heure, où, quand, comment.
Et Marc, alors, mis à part ce spectacle, quelle est votre profession
Ben moi, je suis artiste du spectacle, mais je suis un peu polyvalent parce que je suis à la fois musicien, comédien. Musicien, comédien, c'est une bonne définition, oui. Voilà, donc moi, j'arrive dans cette histoire très récemment. Il y avait un autre musicien qui, pour des raisons diverses, n'a pas poursuivi. Donc j'ai attrapé le train en marche il y a à peine une quinzaine. Enfin oui, j'ai démarré avec la résidence ici. Et je suis donc chargé de mission musique et du coup avec quelques attributions scéniques type comédienne, quoi. Voilà. La particularité, c'est que je joue d'un instrument qui, j'espère, va apporter de l'étrange et du merveilleux, parce que ça n'est rien d'autre qu'une vielle à roue, une ténor qui plus est, donc un instrument un peu développé par rapport aux vielles conventionnelles, qui est un peu une Formule 1 pour ce qui est de mon propre instrument, parce qu'il a des dispositifs divers et variés qui permettent de faire des choses qui vont du bruitage aux morceaux de musique en bonne et due forme. Voilà, en plus il est légèrement amplifié, ce qui permet quelques petits effets aussi sonores. Et donc, moi, en tant que musicien, comédien, j'ai une bonne expérience. J'ai participé à plusieurs productions, que ce soit en solo ou avec d'autres productions où j'étais pas tout seul. Justement, dans le domaine du conte, j'en ai fait plusieurs, oui. Donc, ça me parle particulièrement, cet univers.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument étrange qu'avait construit Jacques Couturau, cet orgue
oui,
de verre ?
Alors oui, dans l'enregistrement que Jacques avait fait, tout comme en spectacle, donc il se servait de son orgue de verre qui est un cristal Bachet. Les frères Bachet étaient des inventeurs d'instruments au milieu du XXe siècle à partir de matériaux assez peu usités habituellement dans la facture instrumentale. En l'occurrence, ici, il s'agit de cristal, des tiges de cristal, des tiges de verre, qui sont mises en vibration par les mains qui ont besoin d'être humides. C'est exactement le même principe que la mise en vibration des verres de cristal qu'on a tous fait dans nos banquets. Ces tiges de verre, de cristal, sont mises en vibration et la vibration est transmise à des résonateurs métalliques, puis des résonateurs en forme de pavillon. Comme les pavillons de nos oreilles ou des haut-parleurs ou des anciens phonographes. Et l'ensemble produit des sons naturels qui paraissent synthétiques. C'est-à-dire ces espèces de « ouh, ouh » comme ça, par vagues, et qui sont complètement naturels. On n'a pas fait mieux avec les synthétiseurs, quoi. Voilà. Alors, on les a à notre disposition. Il y en a un qui est bien abîmé, hélas, les deux orgues de Jacques. On est allé les rechercher dans les placards. On nous les a prêtés bien volontiers. Ils vont principalement servir à l'exposition autour de Jacques pour cet événement, quoi. Voilà. Le public pourra les voir, les toucher peut-être. Peut-être. Je crois qu'on a le droit de les toucher, oui. Et les entendre donc, parce que c'est assez magique de produire du son avec ça. Après, c'est quand même un instrument de musique et sa maîtrise est celle d'un instrument de musique. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine familiarité avec l'objet et puis ensuite un exercice pour pouvoir faire quelque chose de musical. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire du son avec, dans l'immédiat.
Ce n'est pas un instrument qui serait écouté ou entendu dans le spectacle La Forêt des Heures.
On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait, on l'utilise, on ne l'utilise pas. Et puis après réflexion et essai, on s'est dit, Non, on va faire simple. Voilà.
Alors, si on va parler peut-être de la décoration, vous pourriez parler peut-être de cette jeune artiste qui est autour de ce spectacle.
Oui, ben c'est Lara Manipou. Mais du coup, oui, c'est comme dit Muriel, c'est pas de la décoration. C'est vraiment une artiste. On a un privilège incroyable de la voir avec nous. Elle fait chaque chose, elle travaille chaque chose comme un bijou, vraiment, quoi. Donc, elle a fait donc cette grande fresque que vous verrez quand vous viendrez voir le spectacle. Elle a fait les masques, il y a des masques également, et les costumes. Et voilà, je sais pas, Malèle, Muriel, tu veux rajouter quelque chose?
Ouais, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, c'est pas un décor, on lui a pas commandé de décor, elle est pas en train de faire un décor un peu de la même manière que Marc, t'es pas en train d'illustrer. Enfin, c'est pas cette idée qu'il y ait cette histoire, qu'elle qui soit illustrée ou décorée, mais c'est qu'en fait, on soit chacun en train de traverser cette histoire-là. Donc, avec chacun sa technique et sa manière d'exprimer cette chose-là. Donc Lara, en fait, elle a fait tout le travail de résidence du début, donc depuis un an, avec nous, c'est-à-dire aussi les improvisations, aussi les recherches sur les matières, sur les questions fondamentales qu'il y a dans cette histoire, sur les symboles qu'on y retrouve, donc aussi les couleurs, comment chaque personnage porte certaines couleurs, certains éléments naturels, certains comportements. Donc elle a fait partie complètement de ce processus de création. Et ce qu'elle nous montre à voir, à nous comme au public, c'est sa traversée de cette histoire-là. Donc c'est pas, à la limite, on pourrait aussi, et d'ailleurs ça va être à peu près le cas vendredi soir, il va y avoir une sorte de... Moi, je ne vais pas en dire plus parce qu'on garde les surprises, mais de voyage dans cette traversée de son travail à elle comme plasticienne. Mais on pourrait, nous aussi, n'en faire qu'une installation plastique et ne pas jouer, et ça tient la route. Voilà. Donc, c'est pas vraiment la question d'un décor, c'est vraiment une partenaire à part entière complètement. Elle a aussi été extrêmement présente sur les... sur la construction au moment des répétitions avec son regard extérieur. Le travail des masques, c'est beaucoup elle qui nous a fait travailler l'acteur masqué de manière très très intéressante. Et voilà, c'est pour ça que je réagissais sur la notion du décor.
Eh bien, Muriel, Agnès et Marc, merci d'être venu nous parler au micro de Erdiwa. Et puis donc, je rappelle, le spectacle se joue vendredi 31. À partir de quelle heure?
À 20h.
À 20h. Et autour
réservé.
De ce... Voilà. Autour de ce spectacle, il y aura quoi d'autre dans cette soirée? Je suppose qu'il n'y aura pas qu'un spectacle.
Il y a l'inauguration, effectivement, la veille, le 30. L'inauguration du hall des oiseaux de passage. Nous, en début d'après-midi, on fera une représentation scolaire. Enfin, on invitera en tout cas les scolaires, les enfants, à venir visiter notre fabrique.
Le jeudi, hein, on précise.
Le jeudi, le 30. Et puis ben, le 31, c'est une soirée assez complète, puisqu'on vous invite à visiter la fabrique du spectacle, la fabrique en cours de ce spectacle. Donc, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'il y aura une partie de présentation et il y aura d'autres choses, des surprises, des temps d'échange. Voilà. On n'a pas envie d'en dire plus. Il faut venir.
La fabrique d'histoire, est-ce qu'elle a un site internet?
Oui, c'est lafabriquedhistoire.com.
Eh bien, merci et puis bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Un jour, si vous allez là-bas, vous verrez les gens racontent cette histoire. Dites-leur que vous la connaissez maintenant. Dites-leur, si vous voulez, que je vous l'ai racontée, mais si par hasard... Vous rencontrez des enfants chantant cette chanson qui les sauva. Alors, souvenez-vous, chantez avec eux. Faites comme.